Je lirai ensuite dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. » Seigneur, ta parole est source de vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, le pasteur Dominique Cala a médité avec vous sur la parabole du bon samaritain en réponse à la question d'un scribe, comment accéder à la vie éternelle. Et si la parabole du bon samaritain parlait de notre relation avec ceux qui nous entourent, le petit récit de Marthe et Marie est plutôt, lui, centré sur notre relation à Dieu. Alors je finirai l'année en revenant encore une fois dimanche prochain sur l'amour du prochain, c'est bien qu'on en parle. Aujourd'hui, avec cet épisode en tout cas, nous sommes donc toujours dans l'évangile de Luc, dans la suite immédiate du bon samaritain, et nous sommes à Béthanie, à quelques kilomètres de Jérusalem. Deux sœurs, deux manières de s'engager dans la foi. L'une s'active, s'organise et bouge beaucoup, l'autre médite, écoute, interroge. Et comme auditeurs de ce récit, bien sûr, nous sommes à même nous-mêmes interpellés et touchés par ces deux attitudes. Et c'est une attitude à chacune qui peut nous poser question à nous aussi. Quelle est notre relation à Dieu? Quelle est la voie que nous privilégions dans notre vie de foi? Êtes-vous une personne qui s'engage au travers d'actes concrets, au service de l'Église, au service de la foi? Êtes-vous une personne qui s'engage au travers de la méditation, de la contemplation, de la réflexion, de la prière? Cette réflexion est d'ailleurs valable aussi en dehors de l'Église. Qui êtes-vous dans la vie de tous les jours? Êtes-vous une personne très active, toujours en mouvement, engagée dans différents groupes? Êtes-vous une personne qui observe, qui écoute, assise au chevet de la société, plus dans la réflexion? Et d'ailleurs, faut-il opposer ces deux façons d'être et de vivre, ou faut-il au contraire les conjuguer? Ne sont-elles pas complémentaires? C'est un peu toutes ces questions auxquelles nous renvoie ce texte ce matin. Remarquons d'ailleurs qu'il n'y a que Luc qui rapporte cet incident des deux sœurs dans les évangiles, et on peut légitimement se demander ce que l'évangéliste a voulu transmettre avec cette histoire, donc il a vraiment choisi pour mettre dans son propre récit, quelle était son intention, quel était son message pour les lecteurs auxquels il adressait ce petit texte. En tout cas, on s'en doute, il y a eu bien des interprétations à travers les siècles que le professeur André Lunel, dans son commentaire sur ce texte, a regroupé en grandes catégories ou époques que je reprends dans ces grandes lignes pour vous. En gros, il voit une première explication de notre texte qui prédomine au Moyen-Âge et à l'époque classique, et on la rencontre encore souvent aujourd'hui d'ailleurs dans nos églises. Elle voit dans ce récit l'affirmation de la supériorité et de la priorité du spirituel sur le matériel. Par matériel, il faut entendre ce qui est nécessaire à la vie physique, affective, intellectuelle et sociale, ce qu'il nous faut faire en fait chaque jour pour assurer notre existence, pour celle des nôtres, pour exercer nos diverses responsabilités dans ce monde, en fait tout ce qui nous agite tous les jours. À l'exemple de Marthe, absorbée par les nombreux soucis du service, nous dit le texte, nous avons tant de, et tous, Et chacun, chacune, nous avons tellement d'occupations, tout le temps, en permanence, familiales, professionnelles, associatives, télévisuelles, informatiques, que sais-je, qui tendent à accaparer toute notre attention, toute notre énergie, tout notre temps. Et ça envahit finalement nos journées et finalement nos années. Elle ne laisse en fin de compte que très peu de place au spirituel, au religieux, qui doit se contenter de la portion congrue, de ce qui lui reste, et en général c'est très peu. Marthe agit comme la plupart d'entre nous, elle accomplit d'abord les tâches qui lui incombent, elle se consacre avant tout à ce qu'elle doit faire, ensuite, quand elle aura terminé, si elle a encore un moment, elle prendra quelques minutes à l'écoute de la parole et pour la prière. À l'inverse, chez Marie, le spirituel prend la première place, il passe avant tout le reste. D'abord, elle écoute le Christ et après cela, elle se mettra à ses travaux quotidiens. Et Jésus la soutient, Jésus l'approuve. Luc, selon cette première interprétation, rapporterait alors cette anecdote pour nous inviter à donner, nous aussi, la priorité à ce qui relève du spirituel et de la foi. Et vous pouvez imaginer comme ça a dû être bien pratique pour justifier la supériorité du clergé. Une telle interprétation. Au Moyen-Âge, beaucoup d'auteurs ont conclu par exemple à la supériorité de la vie dans les monastères plutôt que de la vie à l'extérieur, dans les champs, la vie dans le monde. Marie, qui contemple et écoute le Christ, symboliserait pour eux les moines, les moniales, les couvents, tandis que Marthe représenterait les laïcs, les séculiers, que leurs tracas et leurs travaux éloignent de l'unique nécessaire. La bonne part serait donc dans la vie monastique. Mais bon, certes, notre histoire souligne bien que nous ne devons pas négliger le spirituel, qu'il nous faut nous en occuper et le cultiver. Mais d'une part, le plus souvent, nous n'avons pas vraiment le choix. Nous ne pouvons pas comme ça laisser nos occupations de côté pour aller vaquer à quelques retraites spirituelles ici ou là, quand ça nous chanterait. Et d'autre part, il ne faut peut-être pas de manière aussi ferme opposer le matériel et le spirituel. Notre spiritualité, elle doit s'exercer, se manifester dans notre vie de tous les jours, dans notre métier, dans notre famille, dans notre bureau, dans notre atelier, notre champ, notre cuisine, et non pas ailleurs, non pas en dehors de nos activités quotidiennes. Et puis au XIXe siècle, à l'époque romantique, très attentive à la psychologie des personnages, à leur sensibilité, à leur trait dominant, on propose alors une deuxième interprétation de notre texte, et on voit alors, dans Marthe et Marie, deux caractères différents. Marthe personnifierait ces gens, toujours au travail, toujours à la tâche, toujours animés, toujours en mouvement, débordant d'activité et ne restant jamais une minute sans rien faire. Marie représenterait au contraire les doux, les contemplatifs, les méditatifs qui se bougent et entreprennent moins, mais qui ont une vie intérieure beaucoup plus riche. Et les sermons alors se développent avec ces thèmes, avec des portraits très contrastés, l'actif et le rêveur, l'énergique et le mystique, l'ingénieur et l'artiste, la cuisinière et la muse. Il y en a eu beaucoup des comme ça. On a même parlé de notre Occident hyper agité et l'indolence orientale. Vous voyez, Marthe et Marie ont été reproduits à toutes les sauces. Et c'est bien souvent aussi d'ailleurs les thèmes que nous avons entendus, en tout cas nous, quand on a entendu prêcher sur Marthe et Marie, souvent ces thèmes sont revenus comme ça. Mais si on va dans ce sens, en tout cas ça conduit à une impasse. Parce que dans ce cas, comment Jésus pourrait-il dire à Marie, de Marie, qu'elle a choisi la bonne place ? Comment a-t-elle pu choisir si c'est une histoire de caractère ? On ne décide pas vraiment de son tempérament, de son caractère ou de ses goûts. Ils nous sont donnés et on fait avec. Et voilà, ils nous constituent. Ils sont partie intégrante de nous-mêmes, mais on ne choisit pas. Et puis, au nom de quoi, d'ailleurs, Jésus établirait-il une hiérarchie entre les deux sœurs ? En fait, dans cette perspective, on pourrait dire que les deux attitudes apparaissent plutôt complémentaires. et aussi nécessaires l'une que l'autre, bien sûr. Et il est en tout cas impossible de dresser un portrait psychologique de ces deux sœurs à partir des rares indications qui nous sont données dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, et de toute façon, ce n'est pas du tout ce qui intéresse les évangiles. Bref, cette deuxième interprétation relève plutôt du roman que d'une étude sérieuse de notre récit. Et puis, André Gunel a relevé d'autres interprétations à travers le temps, mais il y en a une que j'aimerais bien vous redonner parce que je l'ai trouvée intéressante. Il y a une quarantaine d'années, des Américains, ou plus exactement des Américaines, ont rappelé que dans l'Antiquité et jusqu'à une époque récente, on ne traitait pas les femmes en être humain à part entière, au même titre ou au même niveau que les hommes, à égalité avec leur père, leur frère ou leur mari. Et on sait que c'est encore comme ça dans quelques pays du monde. On les estimait faites pour les fonctions subalternes, pour le service des hommes, à qui seules étaient confiées les occupations qu'on estimait nobles. En particulier en religion, les femmes devaient se contenter des tâches considérées comme inférieures. Balayer le temple, oui, mais prêcher, présider un conseil presbytéral, oula, à une époque où c'était impossible. D'ailleurs, même pas sûr que balayer soit inférieur à prêcher. On peut avoir le sentiment, en tout cas, que c'est beaucoup plus efficace. Mais voilà, quelques passages du Nouveau Testament, et en particulier dans l'évangile de Luc, réagissent contre ce dédain des femmes en montrant qu'elles jouent un rôle important, surtout dans des moments décisifs. Alors on peut penser au fait que ce soit des femmes qui aient été choisies pour être les premières témoins et messagères de la résurrection du Christ. Ça a eu tendance à relever l'image. On peut penser aussi à Jésus qui redresse une femme comme ça, qui était courbée depuis 18 ans. Et on peut discerner que c'est sa dignité qui lui rend, il la redresse en tant que femme. C'est bien sûr au-delà de la maladie, au-delà du petit miracle qui se passe, Jésus redonne toute sa dignité à la femme dans ce symbole-là, dans ce geste-là, dans ce signe-là. Voilà, notre texte s'inscrit dans cette ligne, s'asseoir au pied de Jésus, l'écouter. Voilà qui définit la place, l'attitude du disciple modèle, idéal, exemplaire. La conduite de Marie, approuvée par Jésus, montre que cette situation n'est pas un monopole masculin. Elle n'est pas réservée à des hommes, des femmes peuvent aussi la prendre. Elles n'en sont pas indignes, elles n'en sont pas exclues. Les chrétiens doivent le savoir et en tenir compte, en n'interdisant pas, par exemple, aux femmes d'exercer certains ministères dans l'Église, comme c'est encore le cas aujourd'hui, dans beaucoup d'Églises. Le Nouveau Testament se montre justement attentif à la dignité des femmes comme à celle des enfants, des esclaves, des pauvres, des samaritains, des péagers, des collecteurs d'impôts. Bref, tous ceux que la société et la culture de l'époque méprisaient, rabaissaient, marginalisaient, déconsidéraient. Alors il faudrait sans doute élargir cette perspective, elle concerne au premier chef la condition des femmes, certes, mais au-delà, celle de tout être humain. Bref, quand nous abordons ce texte, c'est un peu tout ça que nous portons, que nous avons en nous, que nous avons déjà entendu. Et puis nous pourrions aussi nous demander, et collectivement, notre communauté est-elle plutôt une Marthe à s'agiter, ou une Marie à réfléchir, à méditer? C'est intéressant, j'ai la réponse dans ma tête, mais de toute façon, Marthe n'est pas déconsidérée. Jésus ne rejette pas Marthe, elle n'est pas moins que Marie. Il ne l'exclut pas de son cercle, il ne la renvoie pas, il ne la chasse pas. Choisir la mauvaise part, ce n'est pas ne rien recevoir du tout, ni n'avoir aucune part. Jésus l'invite seulement à changer, à prendre une option différente, à choisir différemment, à savoir reconnaître l'important, la priorité du moment. Jésus est là, il parle, ça ne va pas durer, il faut l'écouter. Le repas, ça peut se faire une demi-heure, une heure après. L'important, c'est ici, maintenant, tout de suite. C'est ça que Jésus est en train de lui dire, et pas autre chose. En tout cas, notre texte ne nous autorise pas à proclamer la fidélité des uns et à dénoncer ou condamner les autres. Nous n'avons pas à juger et à classer les autres, les églises et les gens, en leur apposant comme ça des étiquettes Marthe ou Marie. Ça n'aurait aucun sens. Aujourd'hui, cette parole nous rappelle que Dieu est un Dieu de l'action et pas de l'agitation. Nous sommes appelés les uns et les autres à accueillir le don de Dieu, à écouter l'Évangile, à choisir la bonne part, non pas pour nous la réserver, mais pour la partager avec le plus grand nombre. Alors il semblerait que Jésus dit ici à chacun de nous, qui que vous soyez, quoi que vous soyez homme ou femme, intellectuel ou manuel, patron ou employé, professeur ou médecin, cultivateur ou professeur, plutôt de gauche ou plutôt de droite, ne vous laissez pas enfermer dans le rôle que vous assigne la société, ni emprisonné par les tâches qu'elle estime que vous devriez remplir. À toutes les marques que nous pouvons être, il dit « Ne soyez pas tout absorbé par la cuisine et le ménage, parce que c'est l'image qu'on a de la femme dans votre monde, une épouse, une maman. » Résistez, ne vous contentez pas de vous conformer aux normes et aux usages en cours. Qui que vous soyez, vous êtes, vous pouvez être autre chose que ce qu'on attend que vous soyez. Vous êtes, vous pouvez être ailleurs qu'à la place qu'on vous attribue. Ne vous laissez pas réduire à ce que vous suggère ou vous demande les idées reçues et les schémas classiques. Choisissez la bonne part. Osez faire ce qui vous correspond, ce à quoi vous vous sentez appelé, même si pour ça vous transgressez ce qui semble aller de soi, même si pour ça vous brouillez les idées toutes faites, même si vous rompez avec les habitudes établies. Vous avez le droit, le devoir même, d'être vous-même et de vous affranchir des images convenues qu'on distille du dehors. Voilà ce que nous dit Jésus ce matin à travers ce passage. Écoutez ma parole et choisissez la bonne part pour vos vies.